Au premier jour de 1972, nul ne paraît plus épanoui que le président Pompidou lorsqu'il répond aux vœux du corps diplomatique.
Nous parlons de paix, qui oserait croire qu'elle n'est pas à tout moment menacée. C'est dire, messieurs les ambassadeurs, qu'il est nécessaire que tous les États, et d'abord les plus puissants, s'efforcent de dominer leurs tentations pour travailler de concert si possible à développer l'entente entre les peuples et à faire régner plus d'équité dans les rapports internationaux comme dans les rapports sociaux.
Pourtant, le malaise règne dans la magistrature, la police et même dans les prisons après les mutineries du mois précédent. Le 19 janvier, en Conseil des ministres, les premières mesures en vue de la réforme pénitentiaire sont mises à l'étude. C'est ce qu'annonce René Pleven, ministre de la Justice.
C'est le juge de l'application des peines qui, suivant au moins théoriquement l'avis du condamné, apprécie lorsqu'on peut le faire bénéficier d'un traitement plus favorable, apprécie lorsqu'on peut proposer une remise de peine ou proposer une libération conditionnelle. Un traitement plus favorable, ça peut être un traitement de semi-liberté.
En cette fin janvier, le vent de la contestation, qui avait soufflé dans les universités françaises en juin 68, gagne le Caire. Les étudiants reprochent à M. Sadat de n'avoir pas su liquider le conflit avec Israël. Pendant ce temps, le président de la République française entreprend un deuxième voyage en Afrique noire. Le 25 janvier, c'est Niamey, première étape. Il y est accueilli par M. Diori Amani, chef de l'État nigérien.
Le peuple du Niger vous accueille à bras ouverts.
Le lendemain, c'est la réception enthousiaste du Tchad.
Unis au Tchad, par des accords de défense, la France vous a, dans ces derniers temps, apporté à votre demande l'aide à laquelle ces accords l'engageaient. Cette aide, exceptionnelle, temporaire, se veut conforme à l'idée que nous nous faisons du devenir de vos jeunes États. La France entend rester fidèle à ses amitiés traditionnelles et elle entend respecter scrupuleusement l'indépendance des États qu'elle a fait elle-même entrer délibérément dans le concert des nations.
Le mois de janvier se termine par de tragiques fusillades en Irlande du Nord et de nouveaux entretiens secrets entre Américains et Nord-Vietnamiens. Le palmarès du Grand Prix du Disque est proclamé à l'hôtel de ville en présence du ministre de l'Éducation nationale, Olivier Guichard. Parmi les nombreux lauréats, Jean Marais.
C'est un prix, ce n'est pas seulement moi qui ai le prix, c'est l'ensemble du disque. Il y a Jean Cocteau, il y a la voix elle-même de Jean Cocteau, et il y a d'autres interprètes.
Le prix des phonothèques est attribué à un ouvrage monumental consacré à l'œuvre parlée du général de Gaulle.
Pierre Durand, de quoi s'agit-il ?
De faire du disque d'histoire à partir d'évocations et surtout de documents authentiques. Et nous avons estimé que l'œuvre orale du général de Gaulle méritait un travail tout particulier. C'est la raison pour laquelle nous lui avons consacré 12 disques. Monsieur José Souriant s'est livré à un travail extrêmement long puisque pendant 3 ans, il a fait des recherches et il a été le maître d'œuvre de cette série de 12 disques.
Cela fait plus de 10 ans que je recherche à titre personnel les enregistrements du général de Gaulle, tant de la période de la guerre que de la période présidentielle.
En dépit des nuages qui assombrissent la paix, le 3 février, l'empereur du Japon, Hirohito, ouvre les deuxièmes Jeux Olympiques d'hiver à Sapporo.
Daijuikai Toki Olympique.
Moderne et charmeur, le Premier ministre Chaban-Delmas, dont le programme sur la nouvelle société incommode certains, fait aujourd'hui, dans la presse, l'objet d'attaques sévères de la part de ceux qui lui reprochent la légèreté de sa feuille d'impôt. Il s'en explique.
Il m'a d'abord été reproché de ne pas payer assez d'impôts, parce que l'indemnité du président de l'Assemblée nationale, que j'étais alors, n'avait pas été taxée. Les présidents d'Assemblée, qu'il s'agisse de l'Assemblée nationale ou du Sénat, ou avant la guerre de la Chambre des députés, disposent pour faire face à leur charge de fonction, une indemnité. Et cette indemnité, depuis une décision ministérielle de 1929, j'avais 14 ans, n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu. J'ai donc suivi la loi de tous. Quant à ne pas avoir payé d'impôt du tout pendant 4 ans, c'est de l'invention pure et simple.
Le vendredi 25 février, la mort d'un militant maoïste venu semer le désordre aux usines Renault suscite de vives réactions chez les trotskistes et les militants du PSU. Réunis le lendemain sur l'invitation de la Ligue communiste, les militants d'extrême-gauche se serrent autour de l'inévitable Jean-Paul Sartre.
On a vu d'abord qu'il y a eu un assassinat. Il est certain que la régie en est responsable au premier chef, et deuxièmement que l'arme de cet homme n'était pas par hasard dans sa poche. Les ouvriers n'ont pas peur de la vérité, mais l'usine ou la régie, oui.
Encouragé par ces courants de sympathie, un groupe de maoïstes enlèvera le 8 mars un membre de la direction des usines Renault, M. Nogrette, et exige en échange la libération immédiate de tous les gauchistes arrêtés après les émeutes de Billancourt.
Je suis très tranquille actuellement avec des jeunes gens assez bien masqués et on cause un petit peu de choses et autres à bâton rompu. Ils me portent très bien et ils ont beaucoup d'attention pour moi. Alors te fais pas de bile, ça se passera bien, ça se terminera bien. Je pense que c'est pour pouvoir faire sortir les jeunes qui ont été emprisonnés après les incidents Renault. Alors sans doute qu'ils veulent les faire sortir, 50-50.
Organisé par M. Kissinger lors d'un voyage secret à Pékin, la visite officielle de Richard Nixon en Chine populaire commence le 21 février. Dès son arrivée à Pékin, le président américain est reçu par Mao Tse-tung, tandis que Chou En-lai exprime l'espoir d'une normalisation des relations entre les États-Unis et la Chine. Cette visite, annoncée depuis 8 mois, est en fait l'amorce de la répudiation par les États-Unis de leur soutien à Formose. Le président américain a fait son choix.
We have at times in the past been enemies. We have great differences today. What brings us together is that we have common interests which transcend those differences.
Au mois de mars, prenant par surprise adversaires et partisans, le président Pompidou intime au gouvernement réuni en conseil de consulter le pays par référendum sur l'adhésion des 4 nouveaux membres, dont la Grande-Bretagne, à la communauté européenne. Il en entretient le peuple français lors de sa conférence de presse du 16 mars.
C'est une Europe nouvelle qui se crée et qui va s'affirmer et dont dépendra l'avenir des peuples européens et par conséquent de tous les Français dans le domaine politique, économique, social et humain. Et voilà pourquoi, messieurs, je vous déclare, et à travers vous, et par-delà vos personnes, à tous les Français, qu'il faudra que l'élargissement de la communauté soit ratifié par chaque Française et par chaque Français. Le gouvernement, qui en a délibéré, a l'intention, conformément à notre Constitution dès le début de la session parlementaire, de me proposer de procéder par la voie du référendum.
L'accueil du pays est frais. De surcroît, le ministre des Finances, Giscard d'Estaing, décèle les signes avant-coureurs d'une poussée de fièvre inflationniste.
Il faut maintenant prévoir l'ensemble de l'année qui va aller du 1er avril 72 au 1er avril 73, et nous voulons établir une programmation des prix sur l'ensemble de l'année. Et cette programmation, nous voulons la faire à un niveau qui soit en nette diminution par rapport à l'augmentation constatée l'année dernière. Alors ça ne sera pas le niveau zéro, bien entendu, et malheureusement, mais ce sera un niveau d'augmentation nettement inférieur à celui de l'année dernière.
La campagne électorale pour le référendum est menée rondement, sans passion ni relief. À l'évidence, la prochaine consultation provoque un malaise. La majorité a beau affirmer qu'il ne s'agit que de l'Europe, M. Mitran continue d'en douter.
Un homme, une femme libre, aussi favorable qu'il soit à l'Europe, doivent refuser leur vote, doivent refuser leur voix, s'abstenir ou voter blanc.
Estimant au contraire que le référendum pose au peuple français le problème de l'unité politique européenne, les divers groupes de la majorité font ensemble campagne pour le oui. Monsieur Giscard d'Estaing.
Quand on songe au fait que nous allons pouvoir organiser définitivement le continent le plus divisé et le plus balafré du monde, on se dit que face à une semblable question, sans doute, les socialistes de Jean Jaurès ne se seraient pas abstenus. Et je crois même que les communistes d'Henri Barbusse n'auraient pas voté non.
Monsieur Edgar Faure.
Citoyennes, citoyens, cette fois, il n'est plus trop tôt. Cette fois, il n'est pas encore trop tard. Voici le jour, voici l'heure.
Et c'est maintenant au tour du Premier ministre Chaban-Delmas de s'adresser à la nation.
Au lieu d'être spectateur, plus ou moins intéressé, plus ou moins résigné, soyez acteurs, acteurs pleinement engagés dans cette grande et vaste entreprise. Dimanche, vous aurez la parole. Prenez-la donc.
En droit, le référendum devait être proposé par le gouvernement au Parlement. En fait, l'Élysée seul a décidé de son opportunité. Certains, comme Georges Marchais du Parti communiste, estime que la prochaine consultation ne vise qu'à une réinvestiture implicite.
Pour des changements démocratiques, soyez-en sûrs, Françaises et Français, chaque non comptera. À la coalition réactionnaire des oui, opposant à l'Union populaire du non.
En écoutant Jean-Jacques Servan-Schreiber, on peut se demander comment ceux qui dirent toujours non au général de Gaulle peuvent aujourd'hui approuver une politique soutenue par ceux qui dirent toujours oui.
Si nous voulons avoir la conscience des électeurs dès les prochaines élections, il nous faut dimanche agir avec simplicité, avec bon sens, avec sagesse, et oui aussi, avec grandeur. Non pas la grandeur de l'État, on sait ce que nous en pensons, mais la grandeur de l'homme européen.
Le 23 avril, deux électeurs sur trois choisiront d'aller à la pêche et portent à un chiffre record le nombre des abstentions. Le 5 avril, le meurtre de la jeune Brigitte Devèvre sur un terrain vague de Bruay-en-Artois avait provoqué une vive émotion dans la France entière. Le juge Pascal se voit confier le dossier.
Les éléments ont été découverts, mais ce n'est pas définitif. On m'a demandé l'adjonction d'un troisième expert, expert géochimiste, que j'ai cité. Mais dire dès maintenant d'où provient la terre, c'est pas naturel, on ne peut absolument rien dire de façon certaine pour le moment, ni la terre, ni les produits végétaux.
Pierre Leroy, que le juge fait imprudemment incarcérer, sera bientôt relâché faute de preuves.
J'ai été en cellule très longtemps, tout seul, j'ai lu. Puis après, je me suis intégré à la vie de la prison, c'est-à-dire j'ai travaillé comme tous les autres détenus. Et en fin de séjour, j'ai été affecté avec d'autres codétenus au service de la bibliothèque que j'assurais depuis pratiquement 6 semaines.
Voici maintenant les élections italiennes, qui provoquent, au début du mois de mai, un très net glissement vers la droite. Le 15, le président Pompidou accueille la souveraine britannique en visite pour la seconde fois dans notre pays.
Au nom de la France, je vous adresse nos souhaits les plus chaleureux de bienvenue sur notre sol. J'espère que votre séjour dans notre capitale, puis dans nos provinces, vous sera agréable. Mais je puis vous assurer qu'il vous apportera le témoignage de la sympathie du peuple français pour le peuple britannique et de son affectueux respect pour votre personne et votre famille. Vive la Grande-Bretagne et vive l'amitié franco-britannique.
Nous nous faisons une joie d'admirer de nouveau les splendeurs de la civilisation française et de voir comment la France fait face aux problèmes toujours plus complexes de la vie contemporaine. Je forme le vœu, Monsieur le Président, que notre voyage aide, autant qu'il se peut, à souligner combien est essentielle l'alliance de nos génies nationaux pour la prospérité de nos deux peuples et pour le plein accomplissement de leur destin au service de l'Europe et, par-delà l'Europe, au service de l'univers.
À Madagascar, étudiants et ouvriers confondus se rendent maîtres de certains quartiers de Tananarive. C'est l'émeute. Le président Tsiran nomme le général Ramanantsoa premier ministre avec plein pouvoir.
Quelle est l'étendue de mes pouvoirs? Eh bien, c'est très simple. Tout d'abord, c'est moi qui forme mon gouvernement avec des hommes que je choisis moi-même. Ensuite, je dirige le pays, c'est-à-dire que je détermine et je conduis la politique générale de la nation. Pour les juristes, cela s'appelle être le chef du gouvernement.
Indulgent à l'excès envers ceux convaincus ou soupçonnés de faute, indolent dans la défense de son personnage public, le Premier ministre s'inquiète maintenant du malaise qui se développe dans sa majorité. Il décide de présenter sa défense devant l'Assemblée nationale, où le débat s'ouvre par une intervention de M. Robert Ballanger du groupe communiste.
Vous-même, Monsieur le Premier ministre, bien qu'avec un peu plus de sobriété, avez essayé d'entonner le couplet sur la victoire du oui. Les chiffres étant têtus et démonstratifs, il a bien fallu déchanter. Cependant, chacun a pu constater que vos amis encaissaient mal, si j'ose dire. Mais peut-être, s'agissant de certains d'entre eux, le terme est-il malvenu et impropre.
Monsieur Ballanger.
Achille Peretti.
Messieurs, messieurs, je vous en prie. Messieurs, messieurs, j'ai fait appel, messieurs, j'ai fait appel à la... Et voulez-vous me laisser parler? J'ai appel à la courtoisie de l'Assemblée, je fais aussi appel à...
François Mitran parle au nom du groupe socialiste.
Mes chers collègues, la société d'aujourd'hui n'est pas nouvelle pour grand monde. Les privilégiés restent les privilégiés et voient s'accroître leurs privilèges. Un éventail des salaires et des revenus plus large qu'en aucun pays industriel. 3 millions de salariés avec moins de 1000 francs par mois. 2 millions d'agriculteurs avec un revenu mensuel encore inférieur. Les salaires les plus bas du marché commun pour les prix les plus hauts et pour le plus grand nombre d'heures de travail.
Enfin, le Premier ministre lui-même vient solliciter le vote de confiance qu'il obtiendra d'ailleurs par 368 voix contre 96.
On ne peut être à la fois en accord sur la tactique et en désaccord sur le fond, car si l'accord sur la tactique permet d'envisager avec bien de l'imprudence, d'engager des batailles électorales, seul l'accord sur le fond permet de réaliser des progrès véritables.
Le temps est réellement à l'optimisme. La paix sociale est presque inespérée, troublée, ça et là, par quelques mouvements revendicatifs sans grande portée, telle la grève du 7 juin annoncée par Georges Ségui.
Nos objectifs sont connus. Pas de salaire inférieur à 1000 francs, avec garantie de la progression du pouvoir d'achat, droit à la retraite à 60 ans, avec un minimum de pension de 800 francs. Est-ce exorbitant dans un pays comme le nôtre, en 1972, de demander que les salariés, il n'y ait aucun salarié qui soit condamné à vivre avec moins de 1000 francs par mois.
Le Festival de Cannes fait oublier, pour un temps, les préoccupations journalières, et Jean-Claude Brialy joue les animateurs.
Grand prix, ex aequo, à l'unanimité, l'affaire Mattei de Francesco Rosi, Italie. et la classe ouvrière va au paradis de Elio Petri, Italie.
Juin. Aux États-Unis, la militante communiste noire Angela Davis est acquittée après un procès de 3 mois.
Je crois que si j'étais jugée dans une manière juste, je serais acquittée.
Le lendemain, se réunit à Stockholm la première conférence des Nations Unies sur l'environnement. L'URSS et ses satellites n'y participent pas. Le 4 juin, dans un parc des Princes flambant neuf, Marseille affronte Bastia pour la 55e Coupe de France.
On peut maintenant affronter Astérix, on verra ce que diront les Gaulois. Allez les Bleus, allez Bastia, allez. Et les Bleus, allez Bastia, allez.
C'est un Premier ministre ressemblant étrangement à Thierry Le Luron qui félicite le maire de Marseille, M. Gaston Defferre.
Quel est votre avis? Quel est votre pronostic pour dimanche?
3-0 pour l'OM.
Et vous, monsieur le maire?
Ça ne peut pas faire moins que le président.
Écoutez, disons 8-0 et l'emparement.
L'équipe corse est battue par 2-1. Quelques jours plus tard, dans une arène magnifiquement aménagée qui donnait au vieux stade de Colombes un air de fraîcheur perdu depuis longtemps, le champion d'Europe, Jean-Claude Boutier, trahi par ses nerfs, rate son combat devant le champion du monde argentin, Carlos Monzón.
Monzón est un garçon, un champion très correct. Contrairement à tout ce qu'on peut dire sur lui, je pense que c'est absolument pas l'ours et la brute dont on m'avait parlé, je l'ai eu en face de moi. Évidemment, c'est un garçon qui ne fait pas de cadeaux, croyez-moi, je n'en faisais pas non plus.
Nouveau point d'intérêt à l'horizon politique, l'ORTF. Fin avril, le rapport diligent sur la publicité clandestine avait quelque peu ébranlé l'opinion. Bientôt s'engage à l'Assemblée nationale un débat sur l'Office. Philippe Malot, secrétaire d'État chargé de la fonction publique, prend la parole.
Ce projet n'a qu'une ambition, donner à l'ORTF les moyens d'améliorer sans cesse la qualité des émissions et des images que reçoivent chaque jour chez eux 40 millions de Français. Ce que je vous propose, c'est une radio et une télévision dignes de ce qu'ont toujours été en France l'esprit et la culture. Une radio et une télévision capables de distraire sans céder à la facilité, d'informer sans endoctriner, d'instruire sans lasser.
Puis, c'est au tour de Louis Vallon.
La situation actuelle de la télévision n'est pas saine. C'est une certaine télévision qui a provoqué ce que d'aucuns appellent des scandales. Moi, je me contente de dire qu'il s'agit de choses fâcheuses. Or, non seulement le gouvernement ne condamne pas cette télévision, mais il s'apprête à la renforcer sous le couvert d'un texte auquel sa banalité enlève d'ailleurs tout intérêt. Bref, je demande à l'Assemblée de voter la question préalable qui incitera, une fois votée, et j'espère envers et contre tout qu'elle le sera, qui incitera le gouvernement à prendre toutes mesures utiles pour que l'ORTF devienne digne de la France. Elle ne l'est pas encore.
En fait, c'est Arthur Comte qui, après la démission du directeur général de Bresson, devient le PDG de l'ORTF. Une tâche redoutable pour un homme efficace, énergique et diplomate.
J'ai donc accepté d'être nommé président-directeur général de l'ORTF. Quand la proposition m'en a été faite, il y a quelque temps, je n'ai marqué d'hésitation que pour un motif. C'est que mon acceptation m'impose de renoncer à mon mandat de député des Pyrénées-Orientales, et cela me coûte beaucoup.
Le 16, notre pays connaît une terrible catastrophe ferroviaire. À Vierzy, dans l'Aisne, 108 personnes trouvent la mort. Quelques jours plus tard, la France oublie un instant sa tristesse pour accueillir la reine Juliana de Hollande, venue réduire dans un climat d'amitié les divergences marquées entre les Pays-Bas et la France.
Je tiens à vous témoigner de notre vive sympathie à l'occasion des pertes douloureuses qui viennent de frapper le peuple français à la suite de l'accident si tragique près de Soissons. Cette visite, Monsieur le Président, à laquelle vous-même et Madame Pompidou avez bien voulu nous inviter, nous réjouit d'autant plus sincèrement qu'elle nous fournira l'occasion de reprendre contact avec le peuple français si cher à notre cœur.
C'est au tour du premier Tunisien, Habib Bourguiba, de rendre visite à Paris.
Monsieur le Président, cette visite officielle en France constitue pour moi plus que la réalisation d'un vœu cher, la signification, la preuve que j'ai enfin gagné mon pari, celui de substituer aux liens de dépendance des liens de civilisation, des rapports de coopération active et saine, parce que librement consenti. Il s'agit en effet de la consécration du caractère exemplaire et privilégié de nos relations pour lequel j'ai sacrifié ma jeunesse, ma santé, dans une lutte qui aura duré un demi-siècle.
Le mois de juin se termine par des protestations japonaises contre la série d'expériences nucléaires engagées par la France depuis quelques jours dans le Pacifique. Sans que cessent les critiques réciproques entre socialistes et communistes, le dialogue avait repris en mai, progressé en juin, et le 27, un accord est conclu sur un programme commun de gouvernement. Quelques radicaux de gauche se rallieront le 12 juillet.
Pour notre parti, socialisme et démocratie sont deux termes qui signifient le même objectif et le même idéal. Ils sont inséparables. Désormais, le programme commun est donc définitivement ratifié par nos deux partis. Il s'agit d'un événement sans précédent dans notre pays depuis un demi-siècle.